Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et d'abord, les titres du journal de ce mardi, la crise politique en France avec la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu et le président Emmanuel Macron lui a demandé de mener d'ultimes négociations d'ici mercredi soir pour stabiliser le pays. Le président américain Donald Trump a déclaré croire qu'une avancée décisive était proche concernant l'accord de paix à Gaza, qualifiant les progrès d'énormes. Les dirigeants australiens commémorent les 2 ans des attentats du Hamas du 7 octobre qui ont coûté la vie à 1200 Israéliens et entraîné la prise d'otages de 250 personnes. Et on passe au journal, on commence avec la crise politique en France, la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu. Dimanche, il avait dévoilé une partie de son gouvernement, dont 18 ministres, avec peu de changements notables. Sébastien Lecornu a justifié sa démission en expliquant que, je cite, « les conditions n'étaient plus remplies pour être Premier ministre ». Emmanuel Macron, le président, a accepté la démission de son Premier ministre et il a néanmoins demandé à Sébastien Lecornu, démissionnaire, donc de mener d'ultimes négociations d'ici mercredi soir pour stabiliser le pays. Le point avec Raphaël Delvolvé pour Radio France Internationale.
Ces tractations de la dernière chance semblent avoir déjà commencé. Après un entretien à l'Élysée dans l'après-midi, Sébastien Lecornu est allé voir le président du Sénat, Gérard Larcher. Il l'a dit sur les réseaux sociaux. « Je dirai mercredi soir au chef de l'État si cela est possible ou non pour qu'il puisse en tirer toutes les conclusions qui s'imposent. » Comprendre, le chef du gouvernement sortant va tenter d'obtenir un consensus allant des LR au PS jusque-là impossible. Ce qui renvoie d'ailleurs à une phrase que le Premier ministre a déclarée ce matin au moment d'annoncer son départ. « Il suffirait de peu pour que cela fonctionne. » Il s'en est dit convaincu. Mais pour que cela fonctionne, il va falloir aller vite, très vite, dans un environnement encore plus hostile. Le Rassemblement national annonce désormais vouloir censurer tout futur gouvernement pour obtenir une dissolution. La seule éclaircie dans ce ciel chargé, c'est le renoncement définitif de Bruno Le Maire à revenir aux affaires. Son retour dans le très éphémère gouvernement d'hier soir a ulcéré Bruno Retailleau et provoqué cette démission de ce matin. Sébastien Lecornu a donc 48 heures pour accomplir cette ultime mission. En cas d'échec, le président prendra ses responsabilités, fait savoir son entourage. Et derrière ce terme « responsabilité » se cachent beaucoup de mots, parmi lesquels « dissolution »,« démission », »,« nomination ».
Le président Trump américain, le président américain a déclaré croire qu'une avancée décisive était proche concernant l'accord de paix à Gaza, qualifiant les progrès d'énormes. S'adressant aux journalistes dans le bureau ovale, Donald Trump a démenti les informations faisant état de tension avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, affirmant qu'Israël s'était montré très positif quant aux négociations.
No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great.
Les dirigeants australiens commémorent les 2 ans des attentats du Hamas du 7 octobre qui ont coûté la vie à 1200 Israéliens et entraîné la prise d'otages de 250 personnes alors que les négociations de cessez-le-feu se poursuivent. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié cette journée de, je cite, « journée de douleur et de terreur pour les Juifs du monde entier », affirmant qu'il fallait la commémorer afin de rendre hommage aux souffrances endurées.
It will be a somber day for Jewish Australians, but for Jewish people everywhere, but for people as well who just regard human rights and decent human behaviour. You know, people were massacred who were attending, young people attending a music festival, and you know, terrorism needs to be opposed every time, unequivocally called out. That's what my government will continue to do.
La chef de l'opposition fédérale, Susan Lee, a déclaré que l'attaque a changé le monde, la décrivant comme l'une des attaques terroristes les plus horribles de l'histoire moderne. Les Israéliens dans les rues de Tel Aviv disent qu'ils espéraient un accord pour garantir la libération des otages et la fin de la guerre à Gaza. À Tel Aviv, Hilda Weistall déclare qu'elle veut simplement que la guerre soit terminée.
2 years that were very exhausted for all of us. All the missile attacks that we have here, it's really was exhausted. We are in an emotional roller coaster. I really hope that all the leaders will make a push and this war will end. I think it's the best thing for all civilians, and I think we are ready to get this done.
Le Palestinien Hamza Dugmosh a perdu 22 membres de sa famille dans une attaque israélienne sur la ville de Gaza.
When we heard about a possible truce, we were so happy. Thank God, we now have hope to return to Gaza, despite 2 years of siege, 2 years of pain, and the loss of my family, my children, my mother, my father, and my brothers.
L'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé un accord de défense historique à Canberra après des semaines de retard. Le traité PUC exige que les deux nations se défendent mutuellement en cas d'attaque militaire. Il devait être signé lors des célébrations du 50e anniversaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a quelques semaines, mais la signature a été retardée, le Parlement de cette nation pacifique du Pacifique ne l'ayant pas encore approuvé. Le Premier ministre australien Anthony Albanese affirme que ce traité revêt une importance capitale pour l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
This treaty elevates the relationship between our two nations to the status of an alliance. It is Australia's first new alliance in more than 70 years, and only the third in our history, along with our alliances with the United States of America and New Zealand. I say on behalf of the government and the people of Australia, we consider it a great honour that our nearest neighbour is our newest ally.
La ministre des Communications, Annika Wells, va rencontrer les dirigeants des opérateurs de télécommunications ce mardi, alors que le gouvernement s'empresse d'adopter de nouvelles lois visant à instaurer un système de surveillance du numéro 000. Cela s'ajoute à de nouvelles règles obligeant les opérateurs à partager des informations en temps réel sur les pannes avec les services d'urgence et l'autorité de régulation des médias. Le directeur de Optus, Stephen Rue, ainsi que les dirigeants de Telstra et de TPG ont été convoqués à Canberra avant le pic de la saison des feux de brousse. Madame Wells a déclaré sur Seven Network que les deux pannes de Optus depuis 2023 étaient dues à des défaillances de la compagnie.
There's nothing that anybody, whether the independent regulator, other telcos, has pointed out yet that any of us could have done to stop the failures that happened at Optus from happening at Optus. What happened here, Matt, was a failure by Optus to comply with existing laws. And the laws that we're bringing in this week are to further enshrine confidence of taxpayers in the 000 system. The laws that are coming this week would not have stopped what happened at Optus a couple of weeks ago, because that was a catastrophic failure, a second on the part of Optus.
Le chef adjoint de l'opposition fédérale, Ted O'Brien, a déclaré comprendre que son collègue Andrew Hastie n'avait pas évoqué la politique d'immigration lorsqu'il a démissionné de son poste de porte-parole de l'opposition pour les affaires intérieures vendredi dernier. Andrew Hastie a invoqué un désaccord avec la chef du Parti libéral, Susan Lee, concernant l'orientation du parti en matière d'immigration pour justifier sa démission. Ted O'Brien a également réitéré son soutien au leadership de Madame Lee et à la position de Andrew Hastie au sein du Parti libéral. La porte-parole de l'opposition pour les affaires étrangères, Michaelia Cash, a exprimé son soutien à Madame Lee.
She has the toughest job in history. Not only has she taken over as opposition leader after an election loss, she's taken over as opposition leader after one of the most, the most devastating election loss of all times. So Susan is giving us the space that we need to have policy debates. That is a good thing. But at the end of the day, our focus needs to be squarely on holding this government to account, not on ourselves. That is what the Australian people expect.
La coalition a critiqué le gouvernement albanais pour son manque de transparence après que 6 femmes et enfants auraient été rapatriés en Australie depuis le camp de détention syrien Al-Roj via le Liban vendredi dernier. Al-Roj abrite plus de 2500 femmes et enfants. Ces femmes sont souvent qualifiées de mariées de Daesh, les ISIS brides, en raison de leurs liens réels ou supposés avec les combattants du groupe autoproclamé État islamique. Le camp abrite actuellement 37 citoyens australiens, dont 25 enfants. Le porte-parole de l'opposition pour les affaires intérieures, James Patterson, a critiqué son homologue Tony Burke pour ne pas avoir révélé si le gouvernement était au courant du retour du groupe en Australie.
It's just not good enough for him not to front up to the media and for the public to answer questions about what the government knew, when they knew it, and what they did about the desire of these so-called ISIS brides and their children to return to Australia. They have to answer where they will be living, how they will be monitored, whether or not they'll be charged with any counter-terrorism offences, and whether or not the government assisted them in any way in their return to Australia.
Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré sur SBS News que le gouvernement australien n'était impliqué dans aucune assistance ni dans le rapatriement de ces personnes. 25 chefs d'accusation pèsent contre un homme de 60 ans accusé d'avoir tiré des balles dans une rue de Sydney, blessant grièvement une personne et déclenchant une fusillade avec les forces de l'ordre. L'homme présumé a tiré jusqu'à 100 balles le long d'une rue commerçante animée de Croydon Park dimanche soir, forçant les habitants à se confiner. Les vitres ont volé en éclats et les voitures ont été criblées d'impacts de balles. Aucun policier n'a été blessé, mais plus d'une douzaine de personnes ont été soignées pour des blessures légères, principalement causées par des éclats de verre. Une nouvelle étude internationale révèle que les vagues de chaleur record de 2023 ont été responsables de près de 180 000 décès supplémentaires dans le monde, dont plus de la moitié sont directement liés au changement climatique d'origine humaine. L'étude menée par une équipe internationale de scientifiques de l'Université de Monash en Australie et publiée dans Nature Medicine a analysé les données climatiques et de mortalité de plus de 2000 sites répartis dans 67 pays. Les taux de mortalité les plus élevés ont été enregistrés en Europe du Sud et de l'Est où les températures ont battu des records historiques. Les chercheurs affirment qu'environ 54% de ces décès n'auraient pas eu lieu sans le réchauffement climatique d'origine humaine. Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 21 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 20, Hobart 17, Canberra 19, Sydney 24, Brisbane 32, Darwin 35 et à Alice Springs, maxima de 39 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.